C'est un livre qui est aussi différent des autres livres de la Bible que le livre, par exemple, de l'Apocalypse, de tout le reste. C'est un livre où nous trouvons des thèmes spécifiques qui se trouvent nulle part ailleurs dans les Écritures. Et c'est aussi pour des gens qui sont adultes dans leur foi. Le contenu de ce livre n'est pas un contenu pour des néophytes, c'est pour des gens qui ont atteint une certaine maturité pour comprendre qui est Jésus. Et je crois que ça serait bien pour nous de passer un moment dans ce livre cette année. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va mettre, Justin et moi, nous allons mettre à disposition aussi des types de questionnaires pour chaque chapitre que vous pourrez au fur et à mesure lire, faire une lecture guidée des épreuves. Et puis, on aura aussi les dimanches l'occasion d'approfondir certains sujets sans éterniser en restant dans ce livre. Mais j'aimerais juste voir certaines choses avec vous aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, l'Église se trouve de plus en plus, il me semble, dans une situation difficile. En tout cas, historiquement, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde occidental. L'Église se pose la question, quelle est sa place dans la société? Et nous voyons de plus en plus une marginalisation de l'Église par rapport à la société. La moralité, il y a certaines choses qu'on n'a plus le droit de discuter. La pensée chrétienne, au niveau de quelle est la nature de Dieu, quelle est l'image de Dieu dans l'être humain, le problème du péché, le besoin de pardon, ces sujets, ce ne sont pas des sujets qui sont abordés aujourd'hui. Et quand on parle de l'être humain créé à l'image de Dieu, quand nous parlons de l'être humain qui a chuté à cause de son péché, quand nous parlons du besoin de pardon, les gens, ils rient. Pour eux, on utilise un vocabulaire qui n'est plus à jour et nous parlons des sujets que les gens ne discutent plus aujourd'hui. Donc l'Église doit penser à quelle est sa place dans la société d'aujourd'hui. Deuxième chose, c'est quelle est son influence. Parce que les statistiques montrent de plus en plus, en tout cas dans notre monde occidental, que les églises sont de plus en plus petites et les sondages, les statistiques montrent que le nombre d'athées augmente d'année en année et que le nombre de gens qui s'appellent pratiquants, donc croyants et pratiquants, diminue à travers les années. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'église vivante qui sont en train de grandir, mais nous voyons que de plus en plus, l'influence de l'église diminue et donc son influence sur la société diminue aussi. Donc, quelle est sa place dans la société et quelle est son influence? Puis, troisième chose que nous remarquons, et ça c'est une question aussi que nous nous posons nous-mêmes, c'est que quelle est cette foi à laquelle nous sommes attachés? Il semble qu'il y a une dissonance cognitive entre notre confession et l'expérience de nos vies. Et cela, Justin et moi, nous entendons souvent quand nous enseignons le dessein de Dieu à des gens qui sont croyants et qui ont donné leur vie au Christ. Les Écritures disent que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui habite en nous, c'est-à-dire Jésus. Mais nous regardons autour de nous et on ne se ressent pas cette idée d'être vainqueur dans un monde. Nous prions et nous chantons « Jésus-Christ est Seigneur ». Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Mais nous regardons autour de nous et nous pouvons nous poser certaines questions. Est-ce qu'il est vraiment Seigneur et est-ce qu'il est vraiment roi au-dessus de toutes choses? J'aimerais juste que vous regardiez Hébreux chapitre 2, les versets 7 à 8. Dit ceci, donc en citant l'Ancien Testament, « Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, en parlant de Jésus. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. » Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Vous voyez cette dissonance qui existe? Et notons bien que l'Église qui a reçu cette lettre, cette prédication, cette argumentation soutenue qui dure 13 chapitres, nous voyons que c'est une Église qui se trouve dans la même situation que nous. Nous allons voir que c'est une Église qui pose la question: quelle est notre place dans la société? Qui pose une question: quelle est notre influence dans ce monde? Parce que nos nombres devient de moins en moins pendant que les jours repassent. Et puis, quelle est notre foi? Parce que nous crions et nous prions et nous chantons que Jésus est Seigneur. Mais ici, comme il dit dans notre texte, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et la réponse des Hébreux ne va pas être « Attends un jour et on va le voir ». Ce n'est pas comme cela que l'écrivain va parler à l'Église. Plutôt, il va revenir et parler de tout ce que Dieu a fait en Christ Jésus. La supériorité de Jésus au-dessus de toute autre pensée et au-dessus de tout autre système religieux. Et dans un sens, l'Épître aux Hébreux est un bienvenue au club. Quand nous lisons, c'est bienvenue au club. Parce que l'Église vit cette même histoire depuis 2000 ans. Pour nous aujourd'hui, l'Église a toujours vécu ce type de situation et a toujours dû faire face à une marginalisation, à une pression à abandonner la foi et à une perception de la réalité autour de nous qui semble contredire la foi la plus élémentaire et le premier credo des chrétiens, c'est-à-dire Jésus est Seigneur. Donc, c'est pour cela que je suis très heureux de pouvoir découvrir quelques chapitres de ce livre avec vous. Bon, à qui est écrit cet argument soutenu? C'est vraiment la prédication la plus longue que nous avons du Nouveau Testament. Et si vous lisez à haute voix, c'est 45 minutes, 50 minutes, donc ce n'est pas vraiment une prédication très longue. Mais c'est une argumentation soutenue qui veut montrer qui est Jésus et l'importance de cela dans la vie de nous, les chrétiens. À qui est écrit donc cela? Et première chose que nous voyons, c'est écrit à une communauté souffrante. Le Hébreux chapitre 10, les versets 32 à 34, okay, voici ce que nous voyons. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, et d'autre part, vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement. Alors, il y a quelqu'un qui sonne.
Excusez.
Pas de problème.
Ah oui, je m'excuse.
Ok. Je voulais pas qu'il parte. Ok. Donc, je recommence avec chapitre 10, le verset 32 à 34. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations. D'autre part, vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Donc, vous voyez, il parle ici de, effectivement, vous avez soutenu des épreuves, des combats douloureux, il dit, et grands. Et après, il parle des tribulations et qu'eux, ils se sentaient solidaires avec les autres qui souffraient, même si ce n'était pas eux. Et ils ont compté une joie quand leur est arraché les biens. Et donc, c'est une église qui est en train de souffrir. Je ne sais pas comment ça serait, mais si on venait ici, prenait une liste des gens, alors dit Nicole, Sophie, John, et puis ils disent, alors maintenant, puisque vous êtes chrétien, alors on va enlever les biens que vous avez. Et pas pour les remplacer, pas pour les revendre, mais vraiment pour... Alors, est-ce qu'on sentirait une joie ou est-ce qu'on dirait plutôt ouf, je ne sais pas si il faut garder cette foi que nous avons. chapitre 12, le verset 4, nous dit que ce n'était pas jusqu'à la mort qu'ils ont été persécutés ou frappés, mais quand même, ils ont souffert. Et il semble que les chrétiens ont répondu avec solidarité, avec joie à cela. Bon, c'est aussi une communauté de deuxième génération que nous avons ici. C'est pas des, comme j'ai dit, ce ne sont pas des gens qui viennent d'être convertis. Il semble qu'il y a une certaine vécue. Notons bien, il y a pas mal d'années qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a pas beaucoup de maturité. Ça, je vous dis déjà. Okay? Ce n'est pas une église qui est adulte. C'est une église qui existe depuis longtemps, mais qui n'est pas très adulte. Et comment savons-nous cela? Bon, on parle des dirigeants qui avaient laissé un exemple pour les chrétiens et qui sont probablement décédés quand la lettre a été écrite. Voilà, vous avez ce passage. Souvenez-vous, dans chapitre 13, le verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Et donc, là, on voit qu'il y avait des conducteurs, des gens qui avaient dirigé l'Église, mais qui ne sont plus là. Okay? Ils sont plus là parce qu'ils sont morts et dans la foi. Il semble aussi qu'il y a une vague de découragement qui risque d'inonder les frères. Et ils sont fatigués, ils sont épuisés à cause de toutes ces choses qu'ils voient. Et ici, le passage que nous avons ici, c'est pourquoi redresser les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Ici, nous avons les attentes de l'écrivain pour ces gens, sont très élevées. Il veut qu'ils commencent à prier encore. Il veut qu'ils reprennent le courage qu'ils avaient au début. Mais les chrétiens ne sont pas disposés à accepter l'enseignement contenu dans la lettre parce qu'ils n'ont pas beaucoup grandi dans leur foi, à tel point qu'ils ne sont pas comprendre les doctrines les plus basiques. On doit leur rappeler, par exemple, de qu'est-ce que c'est que le baptême, qu'est-ce que c'est que la repentance, qu'est-ce que c'est que l'onction, toutes ces différentes choses. Ils doivent enseigner ces choses chaque fois plutôt que de passer à l'essentiel. Et là, on voit au chapitre 5, les versets 11 et 12. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. C'est dur, hein? Okay? Alors, j'aimerais vous parler un peu plus de cela, mais vous êtes toujours des gamins dans la foi. Et j'aimerais vous donner un peu de viande, mais franchement, vous ne buvez que du lait. Et quand il dit vous êtes lent à comprendre, waouh, ça c'est dur ici. Mais ce qu'il veut, il veut qu'ils apprennent, qu'ils approfondissent cette foi en Christ Jésus. Il y a des persécutions, comme je vous ai dit, mais pas à la mort. Il dit vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. C'est-à-dire, ce ne sont pas encore des gens qui ont donné leur vie pour le Christ. Et puis finalement, c'est une communauté qui court certains risques. Ce découragement peut devenir fatal pour l'Église, peut mener à une dissolution de l'Assemblée et à un découragement mortel. Nous lisons ici, c'est Hébreux chapitre 10, le verset 25, qui dit « N'abandonnons pas notre Assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Je ne crois pas que l'Église est aux soins intensifs ici. Je crois pas, c'est pas encore là. Il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais ce que nous remarquons, que c'est quand même une Église qui court des risques. Et notons bien, il dit, n'abandonnons pas l'Assemblée quand c'est la coutume de plusieurs. C'est-à-dire, il y a déjà dans cette église de deuxième génération des gens qui ont quitté leur foi. Ils auraient pu arrêter de marcher avec Dieu dans l'Évangile. Et donc, nous lisons ceci. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » C'est-à-dire, s'ils abandonnent, il n'y a plus rien. Le péché ici, c'est pas simplement de faire un péché. Tous font des péchés. Mais ici, c'est l'idée d'abandonner cette foi. Si vous abandonnez la foi, il n'y a pas d'autre sacrifice qui est là, il dit à cette église. Alors, comment va-t-il faire pour que ces gens se recentrent sur cette vie et cette foi? Comment va-t-il les encourager? Et c'est trop simple, je suis désolé, c'est vraiment trop simple. On va lire juste les quatre versets, puis on regardera rapidement cela. Voici son argument. Chapitre 1, les versets 1 à 4. C'est absolument des versets à méditer avant de prier une fois. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui, c'est-à-dire Jésus, qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Ben, que va-t-il dire à cette église? Un seulement, Jésus. Un seulement, Jésus. Ce n'est pas simplement pour les enfants apprendre qui est Jésus, mais c'est pour grandir dans la maturité que nous pouvons nous recentrer sur lui. Nous pouvons approfondir sa vie. Et Dieu veut être en relation avec nous. Et dans ce passage, nous voyons qu'autrefois, à plusieurs reprises, il a parlé avec nous à travers les prophètes. Si vous voulez savoir comment il a fait, je crois que c'est Exode 34, j'ai pas en tête maintenant, mais il y a des visions, il y a des rêves, il y a des voix, il y a parfois que Dieu lui-même venait d'une manière ou d'une autre devant le prophète pour annoncer ces différentes choses. Dieu a parlé à travers les prophètes, mais il dit, mais dans ces jours qui sont les derniers, ok? C'est-à-dire, dans le moment de tout cet accomplissement, comment a-t-il fait cela? Ce n'est pas à travers un Mohammed, ce n'est pas à travers même un Jean-Baptiste, c'est à travers son fils, maintenant, qu'il révèle qu'il est. Et j'aimerais juste que vous compreniez, première chose ici, c'est que Dieu désire ardemment être en relation avec sa création. Dieu veut vivre en relation avec nous. Il veut vivre en relation avec une société qui le rejette. Et comment fait-il cela? Il fait cela en envoyant son fils dans ces jours qui sont les derniers. Juste une chose, Dieu ne va pas envoyer un autre prophète. Il ne va pas envoyer une autre révélation. Il a déjà révélé la totalité de qui il est et quel est son dessein en Christ Jésus. Et notons bien ce qu'il dit. Il dit, il parle avec nous par son fils, par son être. Qui est-il? Bon, vous voyez qu'il dit, le fils qui parle de sa relation avec Dieu. Aussi beaucoup d'autres choses. Mais il est celui qui n'est pas simplement choisi parmi les hommes ou les femmes d'Israël, mais il est celui qui porte l'empreinte de Dieu lui-même. Il est le Fils. Il dit qu'il est beaucoup plus que tous les prophètes. Il est l'héritier de toutes choses. C'est-à-dire, il est celui à qui Dieu a tout donné. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Et ça, quand vous voyez cela, vous pensez à Jean, n'est-ce pas? Jean dit qu'il est venu dans cette gloire qui est là. Il est la manifestation de ce Dieu que nous n'avons pas connu. Il est l'expression de son être. Si vous voulez voir qui est Dieu, vous ne regardez pas un gourou, quelqu'un, vous regardez à Jésus. Il est l'expression de son être. Et l'idée, et là, c'est l'idée de effigie. C'est comme une pièce de monnaie qui est frappée avec l'image de l'empereur. Jésus, c'est on frappe ça, et ça, c'est l'image de Dieu. On regarde cela et on reconnaît en lui Dieu. Il est devenu supérieur aux anges avec un nom qui est différent du leur. Il est au-dessus de toute autre chose. Donc, non, remarquons, première chose, c'est Jésus, c'est son être. Il est le Fils, il est l'héritier, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être, supérieur aux anges, avec un nom qui est différent de leur. Donc, juste que vous voyez cela. Et on pourrait, n'est-ce pas, dans la prière, réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu? Le Fils bien-aimé. Et qu'est-ce que cela veut dire qu'il est l'héritier de toutes choses? Bref, ce sont des choses. Et puis, non seulement parce qu'il est, mais aussi par ce qu'il fait. Regardons ce qu'il fait. Okay? Par lui, Dieu a fait les mondes. Okay? Il est la parole de Dieu, que Dieu a dit, que la lumière soit, et puis la lumière, ben c'est à travers le Fils que cela a eu lieu. Il est le moyen, par ça. Colossiens chapitre 1, je crois que c'est le verset 18, dit c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Deuxième chose que nous remarquons, c'est qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et c'est pour cela qu'il y a tellement de physiciens qui sont croyants. Parce qu'ils regardent les merveilles de notre monde. Ils savent qu'il y a des lois de la physique qui sont là. Mais ils sont émerveillés par cela. Et ils voient la main de Dieu. Bon, ça c'est la main de Jésus derrière tout cela. Il a accompli la purification des péchés à travers la croix. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très, très hauts. Et donc, Dieu, maintenant, il communique avec nous à travers son Fils, par son être, qui il est, et aussi par ce qu'il fait. Et c'est ça, peut-être, que l'Église a oublié. C'est cela que nous oublions, parfois. Et c'est un rappel de l'écrivain que si nous voulons grandir, il faut que nous recentrions là-dessus. Juste certaines choses que j'aimerais dire. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer cela? Il y a un besoin de revenir à ce que nous croyons et de méditer sur ces vérités. Je suis désolé, c'est l'une des premières chants qu'on enseigne aux enfants, c'est « Jesus loves me, this I know » en anglais. « Jésus m'aime, je le sais ». C'est une des premières choses que nous enseignons aux enfants. Et c'est cette même vérité que l'écrivain utilise pour rappeler l'Église ici qui est souffrante. Voici un passage que nous avons, Hébreux 2.1. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Nous devons revenir à Jésus, il dit. Le besoin de revenir à ce que nous croyons et de méditer ces choses et de les annoncer les uns aux autres. Dieu a choisi de parler avec nous autrefois d'une manière incomplète, à travers un prophète, à travers un Moïse. Aujourd'hui, il le fait d'une manière complète en Christ Jésus. Chapitre 3, le verset 12. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous avons été rendus participants au Christ. Nous avons été rendus participants au Christ. Il dit, parce que maintenant, vous êtes en Christ. Et donc, c'est pour cela que nous devons nous détacher du péché. Nous appartenons à lui. Et donc, Jésus devient un sujet inépuisable dans l'Évangile. C'est pour cela que nous lisons les évangiles et nous relisons les évangiles. C'est pour cela que nous méditons les évangiles et puis nous revenons et nous méditons encore une fois. Et juste une dernière chose, que Jésus est la révélation donc suprême. Dans chapitre 10, le verset 35, il dit « N'abandonnez pas donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » Que dit-il? Jésus. C'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu avec nous, source de joie, parole de vie. Tellement simple, mais tellement riche aussi, que quand nous prions, quand nous chantons, quand nous méditons sur la vie, de comprendre que tous toutes ces bénédictions, nous avons en Jésus.